Nous sommes actuellement en compagnie de Michel Masson, qui est sinologue, jésuite et directeur de l'Institut Ricci à Paris. Michel Masson est l'auteur de Matteo Ricci, un jésuite en Chine, Les savoirs en partage, un ouvrage dans lequel il brosse le portrait de cet homme exceptionnel qui était Matteo Ricci, surnommé le lettré d'Occident, passeur de culture entre l'Europe et la Chine, tout en se livrant à un inventaire des connaissances scientifiques de l'époque en Europe et en Chine. Autant dire que le propos est dense. Alors Michel Masson, comment avez-vous travaillé pour écrire ce livre qui est bien plus qu'une biographie de Matteo Ricci?
Écoutez, je n'ai pas vraiment écrit beaucoup dans ce livre. J'ai retrouvé des articles assez anciens déjà, mais faits par des gens très compétents, et des articles qui devenaient introuvables. Donc deux articles de Joe Chebes, qui était professeur à Georgetown aux États-Unis, qui retrace un peu l'ensemble de la vie de Ricci et des problèmes qu'il se posait à propos donc de l'évangélisation de la Chine, et puis des articles du père Bernard Maître, qui a beaucoup étudié le rapport de Ricci et de la science chinoise, lui, le père Bernard Maître, travaillant dans les années 30-40. Et à ceci, alors, nous avons ajouté la traduction d'un chapitre du grand livre de Matteo Ricci, La doctrine du Seigneur du Ciel. Et donc ce chapitre qui est un dialogue entre un lettré confucéen et un lettré d'Occident, en gros sur l'activité morale. Est-ce que l'activité morale doit avoir une intention quelconque ou être complètement désintéressée? Et puis je me suis dit que tout cela était bien sérieux, et alors nous avons rajouté 8 lettres de Matteo Ricci qui ne sont pas encore traduites en français, et donc qui montre un Matteo Ricci alors beaucoup plus humain, râlant de temps en temps que la vie est un peu trop difficile, écrivant à son père en disant « je ne sais pas si vous avez reçu ma dernière lettre », etc., etc. Donc ça donne un aperçu, je dirais, pas complet, mais enfin assez intéressant de la vie de Ricci.
Alors justement, à propos de la vie de Ricci, qui était ce Matteo que les Chinois appelaient Limadou, et qui fait encore parler de lui 400 ans après sa mort, parce que c'est pas banal qu'on en parle encore?
Eh bien, c'était essentiellement un Italien de la Renaissance, donc qui avait suivi des cours d'astronomie, de mathématiques, de philosophie, sans être un spécialiste de tout cela, qui a été envoyé aux Indes, comme on disait à cette époque-là, puisque c'est l'époque où les Portugais venait de découvrir déjà jusqu'au Japon. Et là, il a été envoyé à Macao, où on lui a demandé d'apprendre le chinois, et donc c'était un des tout premiers vraiment à apprendre le chinois, apprendre à lire, à écrire le chinois. Et à cause de tout cela, il a été invité à venir résider en Chine, dans le sud de la Chine. Et après, donc pendant 27 ans, ça a été la montée jusqu'à Pékin, qui n'allait pas de soi, parce qu'il y avait une xénophobie quand même très grande. Et finalement, donc, il arrive à Pékin en 1601, et il est autorisé par l'empereur à rester là sur place. Et alors, tout au long de ce long séjour en Chine, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il parle beaucoup astronomie, mathématiques, cartographie avec des lettrés chinois. Il parle aussi de sujets plus philosophiques. Et de cette façon, il est admis donc non seulement à rester, mais à donner un peu à beaucoup de gens l'impression que le christianisme n'était pas une secte dangereuse, mais quelque chose de très respectable.
Alors, 27 ans pour arriver au but de son voyage, puisque Pékin, c'était le but. Au départ, il s'était dit, il faut aller à Pékin, ça fait quand même très très long.
Oui, ça fait très long, surtout qu'en fait, le premier but dans cette idée d'aller à Pékin, dans cette stratégie en quelque sorte, qui n'était pas en fait celle de Ricci proprement dit, mais plutôt de Valignano, qui était son supérieur, parce que ces gens-là s'étaient rendus compte, Valignano, François-Xavier avant lui, qu'au Japon, il y avait des gens qui étaient, c'était des gens très cultivés, qui s'intéressaient aux sciences, avec qui on pouvait parler. Et donc, si vous voulez, il ne suffisait pas de sortir dans la rue avec un crucifix et de crier en portugais « Convertissez-vous, convertissez-vous ». Donc Valignano a dit « Il faut changer de méthode ». Et alors, c'est ce qui s'est passé. Et alors, où la méthode a aussi changé un peu, c'est quand Ritchie s'est aperçu qu'il avait mis dans sa maison en Chine une planisphère qui a fait beaucoup de bruit parce que c'est la première fois que les Chinois découvraient l'Europe avec tous ses pays, la côte ouest de l'Afrique et puis les deux Amériques. Et alors à partir de cela, ça c'était un peu imprévu, c'est à partir de là que s'est développé donc tout ce dialogue sur des questions scientifiques et cartographiques et philosophiques. Alors cela a pris quand même beaucoup de temps, bon, parce que oui, c'était le premier étranger visible en Chine depuis très longtemps. Il y avait une guerre au Japon, ce qui rendait tout étranger en Chine un peu suspect. Et pour pouvoir arriver jusqu'en haut, il fallait quand même avoir des tampons quelque part. Et pour avoir ces tampons, donc il fallait s'être fait des amis déjà avec un certain nombre de hauts fonctionnaires en route. Et alors ce qui est amusant, c'est que la dernière étape où finalement on lui dit « ça y est, tu peux aller à Pékin », il se fait arrêter en cours de route par un eunuque qui lui confisque toutes ses affaires, plus le bureau des rites, c'est-à-dire donc en gros le bureau chargé des étrangers, intervient aussi dans tout cela. Et Ritchie se trouve en quelque sorte prisonnier pendant 6 mois, soit de l'eunuque, soit du bureau des rites, avant d'être finalement sorti de là par l'empereur.
Et il était le premier Européen à pénétrer à Pékin et à aller dans la cité interdite.
Il était le premier Européen, enfin, depuis Marco Polo. Et quelques autres au nord de la Chine à l'époque de Marco Polo. Bon, il est entré dans la cité interdite, enfin là, il faut être un peu modéré. Ce qui s'est passé, c'est qu'il apportait des présents, puisqu'il venait en tribu, en quelque sorte, devant l'empereur. Il apportait bon, toute une série de cartes d'eau. Il y avait des peintures, il y avait des instruments, des prismes vénitiens et des horloges qui sonnaient toutes seules. Et ça a fasciné l'empereur, qui était un peu une espèce de playboy absolument irresponsable. Et c'est surtout ces horloges qui l'ont fasciné. Il a dit, mais alors ces horloges, c'était le dernier cri sans doute au XVIe siècle, mais elles tombaient en panne très souvent. Et donc l'empereur a demandé, il fallait que Matteo Ricci reste à Pékin pour pouvoir remettre ses horloges en route quand elles tombaient en panne. Et c'est ainsi donc qu'il a effectivement été introduit de temps en temps dans la cité impériale, sans jamais rencontrer l'empereur lui-même.
Juste pour réparer ses horloges. Alors Ricci était versé à la fois en mathématiques, en mécanique, en astronomie, en littérature, philosophie, poésie, théologie, cartographie, horlogerie, musique. Pas étonnant qu'on lui prêtait une mémoire prodigieuse.
Oui, alors il avait, effectivement, il avait une très grande mémoire. Ceci dit, on n'en sait pas plus.
C'est donc pas lui qui nous l'a dit.
On dit souvent, oui, il était capable de réciter un texte ou une série de caractères tout de suite après les avoir vus, et même de les réciter à l'envers. Donc il avait effectivement une très grande mémoire. Il attribuait cela à des techniques mnémotechniques qui étaient effectivement en cours en Occident à cette époque. Ça a beaucoup intrigué les Chinois qui lui ont demandé de lui expliquer quelque chose. Donc il a traduit en chinois un petit livre de mnémotechnique qu'il avait fait quand il était en Italie. Mais en fait, les Chinois sont aperçus que ce petit traité ne leur servait pas grand-chose.
Alors est-ce qu'on pourrait dire que Ricci, c'est un peu l'archétype de l'honnête homme de la Renaissance, doublé tout de même d'un aventurier?
L'honnête homme de la Renaissance, certainement, avec quand même en plus quelques compétences. J'ai dit que ce n'était pas un astronome de métier, ça il l'a redit tout le temps, mais il savait fabriquer des appareils, il savait fabriquer des astrolabes. Quand il est allé à un endroit un peu à l'ouest de la Chine, il a trouvé des astrolabes faits par des astronomes arabes au XIIIe siècle, et il a très bien vu comment ça fonctionnait, et que ces astrolabes n'étaient plus à leur bonne place, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui avait aussi savait faire beaucoup de choses avec ses doigts. Donc c'était un peu plus qu'un lettré de la Renaissance. Un aventurier, je n'emploierai pas le mot, certainement quelqu'un d'une très grande énergie, grand courage, une grande maîtrise de lui-même, ça qui a été remarqué par les Confucéens. C'est quelqu'un qui, dans une conversation, était capable d'écouter, de laisser les autres parler avant de dire ce qu'il pensait. Une bonne santé aussi, parce que tout cela était extrêmement, déjà ne serait-ce que pour survivre au voyage, pour arriver jusqu'à Goa, il fallait une très bonne santé et quand même pas mal de chance. Et alors on peut ajouter à tout cela, il a eu aussi beaucoup de chance. C'est-à-dire il a quand même eu la chance de trouver des lettrés, d'abord au sud de la Chine, qui l'ont invité à venir habiter en Chine, alors qu'il n'avait aucun droit de le faire, et c'était contre tous les règlements. Il en a trouvé d'autres qui ont compris l'importance de ce qu'il apportait, par exemple même des lettrés qui ont compris l'importance d'Euclide, et qu'il était important de traduire au moins les 6 premiers livres d'Euclide, parce qu'il voyait que là, il y avait des principes de base qui manquaient aux mathématiques chinoises, et que donc ces principes de Ricci, plus un certain nombre de ses méthodes concrètes d'observation, par exemple pour la cartographie, plus ses principes moraux, tout cela pouvait peut-être aider à sortir la Chine du marasme un peu moral dans lequel elle se trouvait à la fin de la dynastie des Ming.
Alors Ricci était à la fois un passeur de Chine et le précurseur de la sinologie française, sachant que c'est Napoléon qui, bien plus tard, en 1814, créera la chaire de sinologie du Collège de France, qui était une première en Occident. Mais c'est quand même Ricci qui a un petit peu lancé l'intérêt pour les études chinoises.
Alors, on ne peut pas dire que Ricci était l'initiateur ou le fondateur de la sinologie. Ça, c'est venu plus tard. On peut dire que c'est plutôt avec les jésuites qui lui ont succédé au XVIIIe siècle, spécialement les mathématiciens du roi, donc des jésuites français qui étaient envoyés par Louis XIV expressément comme experts. Et là, alors, il y avait de véritables, des professionnels de l'astronomie ou des mathématiques. Ricci a simplement ouvert la porte fermée, c'est-à-dire à la fois il a montré aux Occidentaux ce qu'était la langue chinoise, il a fait un petit dictionnaire chinois-portugais, il a traduit les quatre livres fondamentaux du confucianisme, qu'il a traduit en latin, bien entendu, et surtout son journal, puisque dans les deux dernières années de sa vie, il a entrepris quand même de mettre par écrit tout ce qu'il avait vécu en Chine, et ce journal a été traduit très vite en latin par Trigo, et ensuite dans différentes langues européennes. Et donc ce journal a été lu alors par nos lettrés à nous, fin XVIIe siècle, et puis après les Voltaire, les Rousseau et les Montesquieu.
Et aussi Leibniz. Voilà, on a évoqué tout à l'heure le premier dictionnaire chinois-portugais de Ricci, et donc là aussi il a été l'initiateur de ce fameux dictionnaire Ricci que vous connaissez bien par ailleurs, vous, directeur de l'Institut Ricci à Paris.
Oui, enfin, initiateur à 400 ans de distance, c'est beaucoup dire.
Ah, il a quand même
bon, effectivement, bon, il y a une tradition qui est restée un peu, que des dictionnaires étaient importants. Mais du reste, là, il faut le dire avec un peu de modestie jésuite, si on peut dire, parce que tous les ordres missionnaires, en Chine notamment, ont fabriqué des dictionnaires, que ce soit les missions étrangères de Paris ou les pères de Skeut ou autres.
Les dominicains aussi, ils ont fait des dictionnaires.
Les dominicains, un peu moins en Chine, mais ils ont dû le faire aussi. Mais ce qui est plus important sur ce dictionnaire de Matteo Ricci, portugais-chinois, qui, du reste, dont on avait l'exemplaire original dans les archives des jésuites à Rome et qui dormait tranquillement là depuis 400 ans, donc il n'a été publié qu'il y a une dizaine d'années, c'est que Ricci inventait une romanisation pour traduire les sons chinois. Donc maintenant, vous parlez du pinyin, n'est-ce pas? Bon, donc ça, c'est le premier pinyin. Et ceci a été important, alors bien entendu, pour les Européens, mais aussi pour les linguistes chinois au cours du XVIIIe siècle, parce qu'ils se sont rendus compte que cette méthode de transcription avec des lettres romaines était plus précise que la méthode chinoise traditionnelle qui consistait à, pour indiquer le son d'un caractère, à prendre deux caractères ayant des sons comparables, et que, d'autre part, ce dictionnaire permettait aux lettrés chinois du XVIIIe siècle de voir quelle était la prononciation exacte en Chine à l'époque de Ricci. Donc ce dictionnaire a eu, je dirais, dans l'histoire de la linguistique chinoise, une assez grande importance.
Et aujourd'hui, le grand Ricci est paru en 2010 dans sa toute nouvelle édition.
Alors, le grand Ricci est d'abord paru en 2001 dans 7 volumes, composés donc par les pères de l'Institut Ricci de Taipei, notamment le père Camus, oui aussi le père Raguin, le père Lefeuvre. Donc c'est un ensemble de 13 000 caractères avec 300 000 expressions, et tout cela revu et corrigé par à peu près une bonne soixantaine de sinologues français ou francophones au long des années. Donc ce dictionnaire a eu une longue histoire, il a duré 50 ans à peu près, mais pour un dictionnaire, ce n'est pas absolument extraordinaire qu'il faille beaucoup de temps. Et alors, 2010, c'est un CD-ROM de ce dictionnaire qui vient d'être effectivement, qui vient de sortir.
Alors, on a parlé tout à l'heure du grand voyage de Matteo Ricci, donc du Portugal en passant par Goa jusqu'en Chine. Alors, dans ses bagages, il avait mis tout un tas d'objets étonnants, dont les horloges, dont les map-mondes, mais dont aussi une épinette. Alors, j'ai envie à ce moment-là de l'émission de passer une musique que Ricci, en tout cas, dont il avait peut-être la partition dans ses bagages. C'est un hymne à la Vierge que, en tout cas, tous les gens autour de Ricci ont dû pouvoir entendre, que ce soit les Chinois ou les Européens. Alors voilà un peu ce qu'on pouvait entendre en Chine, peut-être entre Macao et Pékin, au moment où Ricci y était. Alors on a parlé de son extraordinaire méthode d'évangélisation de la Chine. Il était en tout cas très conscient de l'ampleur et de la difficulté de sa tâche, parce qu'il disait d'ailleurs « Nous ne sommes pas en Chine pour récolter ni même pour semer, mais seulement pour en défricher la forêt ». Ça veut dire qu'il s'était rendu compte, en tout cas, que c'était très difficile. Alors, est-ce que devenir un petit peu chinois pour mieux convertir les Chinois, c'était une idée complètement révolutionnaire et aux antipodes de ce qui se passait en Amérique latine au même moment? Pourquoi ça s'est passé en Chine comme ça?
Bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous voulez, cette idée qu'il fallait une nouvelle méthode d'évangélisation.
Et ça veut dire que l'autre ne fonctionnait pas bien?
C'est-à-dire, au moins, on se disait que l'autre ne fonctionnerait pas au Japon. 1551, c'est-à-dire la date, en gros, où Xavier est au Japon, vous avez la conférence de Tordesillas en Espagne, où tous ces théologiens se rassemblent pour savoir est-ce que les Indiens d'Amérique sont vraiment des hommes. Et alors, au même moment, vous avez François Xavier disant « Au Japon, ce sont des gens de très grande qualité ». Alors, ceci ne veut pas dire qu'en Amérique latine, c'était uniquement une conversion forcée ou à travers des langues étrangères et tout ça, parce qu'il y a aussi eu des gens comme Ruiz de Montoya, par exemple, qui a mis tout l'accent sur l'apprentissage de la langue, sur des études sur la langue locale, entre autres pour savoir si dans la langue des Guarani, il y avait un mot qui pouvait représenter le Dieu de la Bible. Il a dit que oui. Et Ricci faisait la même chose en Chine.
Sauf qu'il n'y a pas de mot en chinois pour dire Dieu.
Il n'y a pas de mot en chinois pour dire Dieu ? Dans quel sens ?
C'est-à-dire que le vocabulaire chinois, en tout cas de l'époque, n'avait pas le mot Dieu traduisible par rapport à notre langue.
Mais est-ce que la langue grecque avait un mot pour désigner le Dieu de la Bible ? Ils ont pris Théos, et ça a fait l'affaire. Et donc Ricci lui a trouvé dans les anciens textes confucéens un ou deux termes, comme justement le Seigneur d'en haut, ou le ciel, en disant, mais voilà, ces gens-là, en fait, n'étaient pas des polythéistes, et ils avaient un culte du ciel, et cela, ça correspond en quelque sorte au Dieu de la Bible.
Oui, mais alors, le fils du ciel, c'était l'empereur. Alors,
le fils du ciel, c'est l'empereur.
Ça fait deux dieux, c'est pas possible. Donc, comment les Chinois auraient-ils
dire
pu...
que dire que l'empereur, c'est le fils du ciel, c'est de même que David peut se dire le fils de Yahweh aussi. Donc, il est bien entendu que c'est un homme qui a un certain rapport très spécial avec la divinité, dont on peut dire peut-être que la divinité l'a adopté comme son fils, mais il est bien clair que l'empereur n'est pas divin en Chine, de même que David n'est absolument pas divin dans l'Ancien Testament.
Quelle raison pouvait avoir un Chinois du XVIIe siècle ou de la fin du XVIe siècle pour se convertir au christianisme ?
Eh bien, c'est une très bonne question. Il y a le livre très célèbre du professeur Jacques Gernet, Chine et christianisme, je crois que c'est la première rencontre, première confrontation, dans lequel, justement, il pose quelques questions très sérieuses en se disant, mais est-ce qu'un Chinois de l'époque des Ming pouvait vraiment comprendre cette théologie chrétienne qui était en plus fondée sur une philosophie occidentale, Aristote et tout ça. Donc, qu'est-ce que ces Chinois convertis comprenaient ou ne comprenaient pas ? Bon, c'est une question, oui, très sérieuse. Ce qui semble, c'est que d'abord, les lettrés convertis, les grands lettrés convertis ont été très peu nombreux. Il y en a peut-être eu une quinzaine. Tandis qu'à la mort de Ricci, il y avait 2500 chrétiens. Alors, il faudra voir qui étaient ces 2500 chrétiens. Mais pour les lettrés convertis, je crois que c'est ça. Ça a été la vision qu'à la fois la théologie, la philosophie de Ricci, plus ces savoirs scientifiques qui, par bon nombre de côtés, étaient en progrès par rapport avec ceux de la science chinoise de l'époque, plus cette insistance sur la vie morale dans un pays où il y avait déjà beaucoup de corruption et où la vie morale n'était pas forcément extraordinaire, qu'il y avait dans tout cela un ensemble de choses qui pouvaient permettre à sauver le pays d'une certaine façon. Alors, vous me direz, c'est sans doute peut-être très ambigu, mais enfin, nous n'en savons pas plus exactement sur ce que pensaient tous ces gens.
Alors, on pourrait dire qu'il a utilisé la science pour évangéliser, et c'est une expérience qui n'a été tentée qu'en Chine.
C'est-à-dire, plus tard, il y a des missionnaires qui vont lui reprocher en disant « Mais on ne convertit pas, on n'évangélise pas avec des mathématiques. » Ricci n'avait pas du tout conscience même d'évangéliser avec des mathématiques. Les mathématiques étaient l'objet d'une discussion entre gens éduqués pour développer justement cette bonne entente, ce respect mutuel, ces amitiés qui feraient que peu à peu les gens s'accoutumeraient à tout ce nouveau discours et à toute cette nouvelle conception de l'existence.
Alors, accommoder le christianisme un petit peu à la mode confucéenne, c'est a priori incompatible, vu de ce côté-ci de la planète. Et finalement, est-ce que Ricci n'était pas devenu lui-même un peu confucéen ?
Alors, comme vous le dites, accommoder le christianisme à la sauce confucéenne, ça peut paraître un peu curieux. Mais là, moi, je vous remploie tout de suite la question en disant la sauce confucéenne, mais qu'est-ce que les gens d'Occident connaissent à Confucius et au confucianisme pour en faire une sauce ?
Eh bien, rien.
Alors, bien sûr, il y a des sinologues, quelques sinologues qui le connaissent, mais c'est toujours ce problème, c'est que nous sommes ces deux civilisations, deux grandes civilisations qui se rencontrent. Et ce qu'a vraiment vu Ricci, c'est qu'il s'agissait de cela, de deux civilisations qui se rencontrent, alors que beaucoup de missionnaires, tout de suite après lui et encore beaucoup plus après lui, n'ont jamais réalisé cela, c'est-à-dire sont un peu venus avec leur culture européenne sans même s'en rendre compte et ignorant tout de ce que pouvait être la culture chinoise qu'ils avaient en face d'eux.
Alors, à propos de culture chinoise, vous publiez un intéressant dialogue entre un lettré chinois et un intellectuel occidental. C'est écrit par Ricci. Et le titre, c'est, on en a parlé tout à l'heure, « La vraie doctrine du Seigneur du Ciel ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces deux conceptions du monde qui sont tout de même extrêmement intéressantes et même encore aujourd'hui, se plonger un petit peu dans ces différences pour mieux comprendre la Chine d'aujourd'hui ?
Oui, je pense que cela reste vrai pour la Chine d'aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, je cite souvent quelqu'un qui, je crois que c'est Jin Guanta, si je ne me trompe pas, qui est un physicien, qui est devenu historien des idées, qui est maintenant à Hong Kong, disant que dans la conception chinoise, il n'y a que deux pôles possibles pour l'existence, c'est-à-dire la relation, le service de la société et la perfection morale individuelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour un troisième pôle qui serait un dieu personnel. Et ça, je crois que cela reste foncièrement vrai. Alors vous me direz, oui, mais après la révolution culturelle, avec le marxisme et tout ça est différent. Oui, tout ça est différent, mais les anthropologues vous diront aussi que ces grandes traditions religieuses ne disparaissent pas du matin au soir. Alors, Ricci donc s'est trouvé au fond devant un peu ce même problème, c'est-à-dire il a cherché un terrain commun avec lequel il pouvait discuter, et donc très vite ils ont pu discuter sur des questions de morale, où Ricci a publié par exemple deux ou trois livres où il y avait beaucoup de citations des stoïciens, de Sénèque, de Marc Aurèle ou bien de Cicéron. Il a écrit ce petit livre sur l'amitié, qui a été un très très grand succès, traduit dans un tas de langues, japonais, coréen, etc. Donc tout cela allait très bien, on était bien d'accord, un respect mutuel, désintéressement justement dans le respect mutuel, ne pas utiliser les autres pour des fins propres, même pour des fins qui seraient des fins spirituelles ou pour le royaume de Dieu, mais vraiment un respect mutuel très désintéressé. Seulement, à partir du moment où Ricci allait plus loin en disant « Mais enfin, si vous faites cela, c'est quand même pour Dieu, c'est pour servir Dieu. » Alors les confucéens disaient « Non, non, mais justement, c'est totalement désintéressé. » Et l'action totalement désintéressée est toujours supérieure à l'action intentionnelle qui est faite en vue de quelque chose. Et cela, bon, cela reste encore très vrai, je pense, à travers toute l'histoire chinoise. Et puis alors en plus, Ricci disait, mais oui, justement, il y a un dieu, ce dieu, qui par ailleurs va récompenser les bons et punir les mauvais, donc ciel, enfer. Et alors là, les confucéens disent, oh là là, halte au feu, mais c'est du bouddhisme que vous nous racontez là, avec votre enfer et avec votre ciel. Donc là, Ricci est pris un peu dans un cercle, où il prend le côté du confucianisme contre le bouddhisme, mais il y a un moment où les confucéens lui disent « Mais ce que vous nous racontez là, c'est du bouddhisme », et aussi où, en fait, certains des livres qu'il écrit, les lettrés qui regardent ça disent « Mais ça, c'est comme du bouddhisme ». Donc là, il est pris dans un jeu d'influence religieuse que personne ne pouvait démêler.
Et donc lui, finalement, il n'est pas arrivé à leur, euh, à les convaincre que ce qu'ils disaient n'était pas du bouddhisme et que l'enfer était aussi chrétien.
Ben, c'est-à-dire, c'est difficile de dire que l'enfer est chrétien jusqu'à quel point, mais là, on n'a pas le christianisme face au confucianisme, on a le christianisme de Matteo Ricci, homme de la Renaissance, de la contre-réforme, face au confucianisme, au pluriel, des lettrés de la fin des Ming. Et en fait, beaucoup de ces confuciens qui critiquaient le bouddhisme, en fait, en même temps, avaient beaucoup de contact avec le bouddhisme et avaient souvent des confucianistes très colorés par le bouddhisme. Mais alors là, pour Matteo Ricci, c'était quand même très difficile d'arriver à s'y retrouver dans tout ça.
Oui, et d'ailleurs, à propos de bouddhisme, quand il est arrivé, il avait pris l'habit des bonzes parce qu'il pensait que c'était mieux pour passer, en tout cas pas inaperçu, mais se fondre dans la société chinoise. Et puis il s'est rendu compte que c'était pas une bonne chose parce qu'ils étaient socialement dans une hiérarchie très basse, les bonzes. Et donc du coup, il s'est habillé comme un lettré et c'est là que tout a commencé. Il a été considéré dans la société chinoise et on a commencé à l'écouter. Comment les Chinois voyaient-ils le monde à l'arrivée de Ricci ?
Le monde,
le ciel, la terre, tout ça. Ils avaient une cosmologie particulière.
Eh bien, ils avaient oublié beaucoup de choses qu'ils savaient avant. Et donc, ils avaient un peu une théorie d'une terre carrée, d'un ciel rond. Mais ce qu'ils avaient, surtout d'immenses archives, si on peut dire. Ils avaient collectionné des observations, alors remontant à 1000 ans avant Jésus-Christ, d'éclipses ou tremblements de terre, etc. Mais tout cela avait été oublié. Alors là aussi, on peut dire que c'est une des raisons pour lesquelles on peut dire que Ricci a eu de la chance. Il est arrivé un moment où la science astronomique, mathématique en Chine n'était vraiment pas à son plus haut niveau.
Et il leur a un petit peu rappelé des connaissances qu'ils avaient déjà. C'est d'ailleurs les connaissances de l'islam qui avaient transité par la Chine et puis qui après s'était un petit peu évaporé. Ricci a aujourd'hui sa statue à Pékin. Il est presque vénéré comme protecteur des horlogers. D'ailleurs, j'ai vu ça, c'est assez amusant. Pour terminer, est-ce qu'on pourrait dire que Matteo Ricci a réussi sa mission en Chine ?
Oui, alors... Quelqu'un a écrit un livre, le père Laurentin a écrit un livre il y a 30 ans, un très bon livre sur l'histoire justement du christianisme en Chine, où il considérait chacune de ces étapes comme des occasions manquées, c'est-à-dire de très bonnes occasions, mais qui ont été ratées pour des raisons humaines, enfin sans doute de la part de l'Église, etc. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. Je crois que Ricci a fait au mieux tout ce qui était faisable, tout ce qui était possible de faire dans les circonstances, parce que nulle part il n'était écrit qu'on pouvait tout à coup convertir toute la Chine ou même la moitié de la Chine. Donc ce qu'il faut plutôt regarder, c'est ce qu'a fait Ricci, ce qu'il a accompli, et réfléchir là-dessus pour essayer de comprendre effectivement que la société chinoise, elle est là, avec sa tradition à elle, avec des gens qui réfléchissent, qui se posent des questions, qui sont fondamentalement les mêmes questions que nous, mais qu'ils ont leur propre manière d'aborder et de mettre en ordre.
Combien de catholiques en Chine aujourd'hui ?
On pense 12 millions.
Bon, on peut dire qu'on a fait du chemin depuis Matteo Ricci. Alors, Michel Masson, merci. On vous retrouve ce soir pour une conférence sur le même sujet, donc, et sur l'ouvrage que vous avez écrit qui s'appelle Matteo Ricci, un jésuite en Chine, les savoirs en partage, édité par les facultés jésuites de Paris et l'Institut Ricci.